Destination Demain, le podcast qui explore la mobilité du futur.
Avez-vous déjà eu ce fantasme au volant ? Vous conduisez depuis un bon moment et la route est encore longue. La fatigue se fait sentir, mais il faut avancer. Vous voulez absolument arriver à destination à l'heure que vous aviez prévu. Ah, si seulement la voiture pouvait conduire toute seule. Et puis pendant ce temps, vous pourriez dormir, travailler, jouer avec vos enfants, bref, profiter pleinement de l'espace-temps qui s'offre à vous. Ah oui, si seulement elle roulait toute seule, cette voiture. Il se trouve que ce rêve-là, on nous le vend depuis plusieurs années. L'arrivée de la voiture autonome sur nos routes est imminente, nous dit-on. Ah oui ? Mais elle est où alors ? Et est-ce qu'elle va vraiment tenir toutes ses promesses ? Voilà des questions qu'il nous faut explorer dans ce nouvel épisode de Destination Demain.
Épisode 3, à quoi servira la voiture autonome ?
Il y a eu au début des développements, donc à peu près il y a une dizaine d'années, des effets d'annonce. Au premier qui lancera sa voiture autonome, donc ces effets d'annonce ont été trop optimistes.
Derrière cette mécanique de l'intelligence artificielle qui va donner une consigne au véhicule, on est vraiment dans des logiques probabilistes et pas du tout déterministes. Ça veut dire qu'il y a toujours une part de risque ou d'incertitude.
Pour moi, cette mobilité a un vrai avenir. Elle a un avenir si on la considère vraiment partagée et non pas individuelle comme on a pu le voir dans les années 2010.
Ce que je crains, c'est que les automobilistes aient en tout cas perdu une chose essentielle, la notion de plaisir, voire éventuellement d'indépendance, d'autonomie.
On a tous en nous une voiture autonome. Oui, dans notre imaginaire. Grâce aux films, aux séries, aux BD, elle existe depuis des décennies. C'est même une vieille histoire, la voiture autonome. Pour beaucoup, c'est K2000 qui l'incarne le mieux. Du nom de cette série télévisée des années 80 qui a popularisé David Hasselhoff. D'autres me parleront de la Batmobile. Moi, ma préférée, c'est sans doute celle commandée à distance par Jarvis, l'assistant personnel d'Iron Man.
Tu es là, Jarvis.
À votre service, monsieur.
Et puis bien avant ces voitures intelligentes-là, il y en a une autre qui m'accueillit dès ma plus tendre enfance. Bref, la voiture autonome n'a rien d'une idée nouvelle. À vrai dire, la première fois qu'il en a été question, c'était en 1925, il y a un siècle. Cette année-là, la Lincoln Wonder circule dans les rues de New York sans personne au volant. Elle est guidée par ondes radio depuis une autre voiture qui circule juste derrière elle. Bon, d'accord, c'était pas l'idéal. Les premiers programmes de recherche sérieux remontent finalement à la fin des années 70. Mais c'est surtout au début des années 2010 que l'idée s'est vraiment imposée. Celui qui chante, c'est Elon Musk. Oui, il chante pendant son temps libre. Quand il n'envoie pas Thomas Pesquet dans l'espace à bord de sa fusée SpaceX, ou qu'il ne promet pas une nouvelle fois que la voiture autonome sera disponible sur les routes avant la fin de l'année. Il l'a évoqué dès 2016, puis affirmé en 2017, puis en 2018, puis en 2019, etc., etc. Il se trompe, Elon Musk ? Eh bien, ça dépend de quoi on parle. Il faudrait peut-être commencer par la base, c'est-à-dire une définition de la voiture autonome. J'ai demandé à Pierre Delegue, directeur des projets de mobilité connectée et autonome à Léonard et Vinci Autoroute, de nous éclairer un peu.
Oui, il faut commencer par définir de quoi on parle. Je suis assez d'accord. On entend souvent parler de véhicules automatisés ou autonomes, de véhicules sans conducteur. Parfois, on parle de véhicules particuliers, parfois de navettes. Donc, il faut commencer par un peu de définition. Et en fait, il y a une échelle de référence qui existe, qui a été développée par la SAE. La SAE, c'est quoi ? C'est la Société des ingénieurs de l'automobile américaine, qui classe en 6 niveaux, de 0 à 5, les différents niveaux d'autonomie. Donc, en gros, ça va de 0 pour les véhicules manuels, où il n'y a aucun système d'assistance ni de délégation de conduite. Les niveaux 1 et 2, ce sont les systèmes d'assistance à la conduite. Donc, vous êtes toujours responsable de la conduite à tout moment. Et donc, ce sont des systèmes qui existent aujourd'hui dans les véhicules. Ce sont les régulateurs adaptatifs de vitesse, les systèmes d'aide au maintien dans la voie. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est les niveaux 1 et 2. Et à partir du niveau 3, 3, 4 et 5, ce sont les niveaux de délégation de conduite. Là, on a vraiment des moments et des conditions dans lesquelles c'est le véhicule qui conduit. Le conducteur n'a plus les mains sur le volant, n'a plus les yeux sur la route. Il y a de la vraie délégation de conduite. Voilà.
Dit comme ça, ça paraît en effet très clair. Les systèmes de niveau 1 et 2 sont déjà largement répandus sur nos voitures. Le niveau 3, lui aussi, est disponible sur le marché. Honda a lancé son premier modèle en mars 2021, cette année donc. Sa berline est capable de conduire toute seule, mais uniquement sur voie rapide, en cas de bouchon. Et le conducteur doit être capable de reprendre le contrôle à tout moment. Idem pour les Tesla, la marque d'Elon Musk, équipée de la fonction autopilote. Contrairement à ce que la dénomination laisse entendre, le conducteur doit bel et bien, pour l'instant, rester attentif derrière son volant. Rien à voir donc avec notre rêve initial de voiture autonome. Et je connais quelqu'un que cette confusion sémantique agace. Tenez, il va se présenter tout seul.
Bien, moi je suis Marc Rigolo, je suis le directeur de la Fondation Maïf.
La Fondation Maïf a mené de nombreuses études au sujet de la voiture autonome. Et l'une de ses principales conclusions, c'est la nécessité de s'entendre sur la définition précise de la voiture autonome.
C'est Albert Camus qui disait « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et finalement, en parlant de voitures autonomes pour des voitures qui ne le sont pas, on crée de la complexité. En fait, c'est un peu la supercherie de cette histoire-là. Parce que, notamment aux États-Unis, Elon Musk, pour ne pas le citer, passe son temps depuis d'ailleurs 4 ans à dire « à la fin de l'année, mes voitures sont 100% autonomes ». Ça fait quand même 4 ans qu'il dit ça, ça fait 4 ans d'ailleurs que les marchés le suivent sur ce discours-là. Et cette année, il redit la même chose, il commence même à vendre des softs qui promettent la voiture 100% autonome à la fin de l'année. Alors que finalement, tous les experts savent que c'est tout à fait illusoire. Ce qui est délicat dans cette affaire-là, c'est que ça entretient un discours qui va faire croire aux gens que la voiture va pouvoir conduire toute seule. Or, on en est très très loin.
Alors, c'est un coup de com' la voiture autonome ? Non, bien sûr. Mais le concept s'est cogné dernièrement au mur de la réalité, après une décennie de fantasmes et de rêves sur le sujet. Oui, de rêves. C'est le mot employé par Pierre Delegue.
Oui, c'est parti d'un rêve d'ingénieur. Il faut un peu le dire comme ça. Dans la filière automobile, les ingénieurs développaient ça parce que quand même, c'était très intéressant. C'était fun, hein. C'était motivant de développer ces systèmes-là. Il y a eu au début des développements, donc à peu près il y a une dizaine d'années, des effets d'annonce. Au premier qui lancera sa voiture autonome, donc ces effets d'annonce ont été trop optimistes. Il y a eu aussi une redescente sur Terre. Les challenges techniques ont été plus grands que prévu. Et un des plus grands challenges techniques, c'est la démonstration de la sécurité. Et donc ça, c'est plus long et plus complexe qu'initialement prévu. Et donc, il y a eu certaines remises en cause. La principale remise en cause, c'est le niveau 5. Le niveau 5 était prévu dans les feuilles de route de beaucoup il y a quelques années. Aujourd'hui, il est très incertain. Certains le prévoient encore, mais parlent d'un horizon beaucoup plus long terme. Alors, est-ce que ça sera 2040, 2050, 2060 ou jamais? On ne sait pas.
Non. On ne sait pas aujourd'hui si la voiture totalement autonome sera une réalité un jour. Certains en doutent. Et d'ailleurs, le groupe PSA est déjà sorti de la course. Il a annoncé en 2019 qu'il abandonnait ses recherches autour des véhicules autonomes de niveau 4 et 5. Voilà donc où nous en sommes. Le fantasme de la voiture qui conduit toute seule est sacrément écorné. Il faut dire que ces dernières années, il y a eu de tristes événements qui ont fait la une de l'actualité. En 2018 notamment, une femme de 49 ans qui traversait un carrefour avec un vélo a été tuée à Phoenix, dans l'Arizona, après avoir été percutée par une voiture sans chauffeur appartenant à la flotte d'Uber. Ce drame a mis brutalement fin à l'insouciance et l'enthousiasme autour du concept de mobilité autonome. Assurer la sécurité de ces engins est loin d'être simple, ce qui est d'ailleurs une évidence pour Marc Rigolo. La Fondation Maïf a fait tester en 2009 un certain nombre de modèles et de prototypes et les résultats sont selon lui plutôt inquiétants.
Lorsqu'on a fait cette étude, on a été assez surpris. D'abord parce que visiblement, il y avait des situations relativement simples et a priori maîtrisées que ces véhicules n'étaient pas capables de gérer, donc avec des risques importants d'accidents, hein. Mais également parce qu'il y avait beaucoup d'hétérogénéité dans les comportements, c'est-à-dire que si on refaisait avec un véhicule, le même véhicule autonome, 10 fois le même test, on n'avait pas 10 fois le même résultat. Ce qui prouve que derrière cette mécanique de l'intelligence artificielle qui va donner une consigne au véhicule, on est vraiment dans des logiques probabilistes et pas du tout déterministes, et ça change un petit peu tout en matière de sécurité. Ça veut dire qu'il y a toujours une part de risque ou d'incertitude. Aujourd'hui, par exemple, les véhicules peuvent voir ce qu'on appelle des images fantômes. C'est-à-dire que les systèmes voient des choses qui n'existent pas, un peu comme un mirage, et donc ils doivent les interpréter, ce qui a provoqué un certain nombre d'accidents. Moi, je ne peux pas imaginer que les capteurs, lorsqu'il y a eu l'accident de cette dame qui traversait avec son vélo en travers de la quatre voies, que les capteurs de la voiture ne l'aient pas vu. Je pense qu'ils l'ont vu, mais ils ont interprété quelque chose. Un vélo avec quelqu'un qui passe en travers, c'est pas dans leur modèle, hein. Les vélos, ils sont plutôt dans l'axe de la route, donc c'était un truc inconnu. Et à mon avis, les systèmes ont plutôt fait le choix de dire c'est un faux, ce qu'on appelle un faux positif, donc on peut y aller. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Une des difficultés qu'on aura aussi, c'est la cohabitation entre des voitures autonomes ou semi-autonomes et nos propres voitures actuelles.
C'est-à-dire qu'effectivement, l'environnement urbain, il apparaît de plus en plus complexe. On a ce sentiment que la conduite est de plus en plus difficile et peut-être même de plus en plus accidentogène. Donc le risque de l'arrivée des premiers véhicules autonomes, c'est encore de rajouter une couche à la complexité de tout ça ?
Oui, alors effectivement, ça sera une couche supplémentaire. Et d'ailleurs, dans certaines villes aux États-Unis, il y avait des réactions des citoyens agressives avec ces voitures autonomes qui étaient en test. Parce que finalement, c'est encore un élément de complexité. M'a-t-elle vu ? Va-t-elle s'arrêter ? Ça pose des questions. Et effectivement, quand on cumule cette difficulté de la voiture autonome en elle-même avec nos nouveaux modes de circulation, surtout dans les villes européennes. Vous avez les engins de déplacement personnel, les vélos qui sont à contresens en certaines rues. Vous avez des gens qui respectent pas toujours, on va dire, des règles de bon sens avec tous ces nouveaux systèmes. Et ce sont des gens le plus souvent qu'on appelle des vulnérables. Donc, s'il y a un accident, ça peut faire très mal. Bah, ça va être très compliqué pour une voiture autonome, dans ces algorithmes, d'être capable d'interpréter et de comprendre ce que sont en train de faire ces gens-là ou ce qu'ils vont faire. C'est pas forcément évident, par exemple, de paramétrer qu'une trottinette peut passer sur un passage piéton sans même s'arrêter, ou peut être à contresens dans une voie où il n'est pas du tout prévu qu'elle soit là. Et là, comment va réagir l'algorithme ? Ça, c'est des questions complexes que les Américains ont peut-être pas encore, parce qu'ils ont des grandes rues très droites, tout ça est tiré à la craie. Et évidemment, c'est beaucoup plus simple dans ce contexte-là que dans nos contextes européens.
Bon, autant le dire clairement, ce rêve de la voiture qui viendra me chercher en bas de chez moi, qui me transportera en ville, qui sera capable de m'emmener toute seule jusqu'à mon lieu de vacances, reste aujourd'hui une utopie. Et puis certaines études estiment que la voiture autonome, si elle existait, par l'enthousiasme qu'elle pourrait susciter, entraînerait finalement une augmentation de la congestion urbaine et de l'émission de gaz à effet de serre. Bref, il est définitivement temps d'arrêter de fantasmer et de se poser les bonnes questions. Savez-vous qu'il existe aujourd'hui en France une stratégie nationale de développement de la mobilité routière automatisée ? Sous l'égide du gouvernement, elle vise à fédérer les acteurs publics et privés pour soutenir l'innovation, favoriser la mise au point d'un cadre réglementaire et aussi, accessoirement, définir la façon dont cette technologie pourrait se mettre au service du bien commun. Oui, c'est un peu grandiloquent dit comme ça, mais l'enjeu est immense. Le véhicule autonome ne doit pas devenir qu'un gadget pour automobilistes fortunés. Non, cette innovation a au contraire son rôle à jouer dans l'avènement d'une mobilité inclusive. Pour essayer de mieux comprendre, j'ai joint par téléphone Sylvain Béloche. Il est directeur de projet véhicule autonome et connecté au CEREMA, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Il m'explique que depuis 2015, le CEREMA étudie de près les 150 expérimentations liées à des véhicules autonomes. Et quelques exemples sont selon lui particulièrement intéressants, notamment l'un déployé dans la banlieue de Rouen.
On a un service de transport à la demande qui permet aux personnes, depuis le terminus de la ligne de tramway, de se rendre dans une des facultés ou dans une des entreprises du quartier environnant. Donc l'usager, par son téléphone portable, peut appeler une voiture autonome qui vient le chercher et qui l'emmène à sa destination finale. Donc s'il y a besoin d'un service, le service s'active. S'il n'y a pas besoin, le service ne s'active pas. Après, en termes d'expérimentation, bon, il y en a eu effectivement beaucoup. Je pense que je peux en donner une ou deux autres qui sont aussi assez importantes à mes yeux. C'est déjà une première expérimentation qui se déroule à Lyon entre un arrêt de tramway et le grand stade de foot de l'Olympique Lyonnais, où c'est la première expérimentation qu'on voit apparaître sur des plans de réseaux de transport en commun aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on vient matérialiser cette expérimentation comme étant un vrai service offert à l'usager, comme une ligne de bus, comme une ligne de métro. Et une autre expérimentation qui me vient aussi à l'esprit, qui est un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir, qui est une expérimentation qui se déroule dans la Drôme, dans un contexte donc beaucoup plus rural. Et on a une navette qui permet de faire la liaison entre la gare de Cray et le campus de Biovallée. Cette expérimentation-là, c'est vraiment une première dans le sens où elle se déroule vraiment dans un milieu rural, donc on n'est plus dans une métropole, on n'est plus dans une grande agglomération, et ça permet d'offrir un service là où il n'y avait aucune desserte de transport en commun jusque-là.
Oui, le véhicule autonome a aussi, et peut-être surtout, son rôle à jouer en milieu rural. Certaines pistes explorent la possibilité de récupérer les lignes ferroviaires abandonnées et d'y déployer à la place des navettes autonomes. Ce serait une chance pour certains territoires. Alors nous sommes très loin du fantasme initial, et pour l'instant les navettes dont on parle ne parcourent que quelques kilomètres à une allure très modérée. Pour autant, ce sont des perspectives extrêmement intéressantes pour Sylvain Béloche.
Pour moi, cette mobilité a un vrai avenir. Elle a un avenir si on la considère vraiment partagée et non pas individuelle comme on a pu le voir dans les années 2010. La voiture autonome individuelle privée, ça ne répondra pas à des enjeux de société tels que des enjeux de congestion routière, à des enjeux de réduction des gaz à effet de serre. Donc, il faut que la mobilité soit partagée. C'est pour ça que nous, côté CEREMA, on promeut ce type de mobilité partagée par des navettes autonomes, par des voitures autonomes partagées qui doivent permettre de répondre à ces défis de demain. Donc oui, je pense que la technologie du véhicule automatisé va continuer à se développer, va continuer petit à petit à venir trouver sa place. Alors généralement aujourd'hui, pour les systèmes de mobilité en complémentarité des systèmes de transport actuels, notamment là où aujourd'hui c'est trop compliqué de mettre en œuvre des systèmes de transport, notamment dans des zones périurbaines où on a beaucoup de difficultés à avoir un service économiquement performant.
Autre piste intéressante, celle de petits droïdes autonomes qui pourraient assurer les livraisons en centre-ville, là où les véhicules actuels ont du mal à circuler. Bref, la mobilité autonome va venir compléter notre mobilité actuelle et non pas la remplacer. C'est ce qui semble se profiler aujourd'hui. À une exception près peut-être. Il y a un environnement dans lequel le déploiement des véhicules autonomes sera plus facile. C'est l'autoroute. D'une part parce que c'est par essence un réseau plus sécuritaire que les autres, et d'autre part parce que l'infrastructure pourrait évoluer de façon à favoriser la circulation des véhicules autonomes. Pierre Delègue va nous expliquer tout cela.
Sur autoroute, en effet, l'infrastructure a de grandes choses à faire, et ça passe par de la connectivité, par de l'échange de données entre l'infrastructure et le véhicule autonome. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'infrastructure pourrait envoyer des informations au véhicule autonome pour l'aider à anticiper des choses qu'il ne voit pas encore. Certaines situations à risque, certaines singularités du réseau, un accident, une zone de travaux, une congestion, un ralentissement, un véhicule arrêté. Il y a plein de cas qui existent sur l'autoroute, qui sont pas normaux, ça arrive tous les jours. Et l'opérateur d'infrastructure, dans le cas de l'autoroute, le gestionnaire autoroutier, les connaît. Il est responsable de les surveiller, d'intervenir, etc. Personne de mieux que lui n'a cette information-là. Et il pourrait, du coup, via de la connectivité, envoyer ces informations au véhicule autonome pour le prévenir, pour qu'il puisse anticiper sa manœuvre et, du coup, gérer ces singularités-là en toute sécurité.
C'est-à-dire, dans les prochaines années, il va sans doute y avoir des arbitrages qui pourraient quand même révolutionner l'environnement autoroutier tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Oui, mais la stratégie nationale est assez claire là-dessus. Elle reconnaît déjà l'approche systémique, c'est-à-dire l'infrastructure est partie prenante d'un système de mobilité. Et donc, il faut qu'elle joue un rôle, qu'elle contribue à des systèmes de mobilité sûrs, abordable, déployable à court terme. Et puis, la stratégie nationale en France reconnaît aussi le besoin d'infrastructures connectées. Et donc, à quelle échéance, court, moyen terme, on l'espère. Mais c'est clairement un des axes de la stratégie nationale.
L'idée également, c'est qu'en transférant vers les infrastructures une partie des technologies nécessaires à la mobilité autonome, cela ferait à terme baisser le coût d'équipement des véhicules. Et un jour peut-être, les cars, les poids lourds, les voitures, quand ils arriveront sur autoroute, passeront en mode autonome. Ce n'est pas un défi technique insurmontable et c'est peut-être l'horizon le plus tangible actuellement. Voilà donc un panorama des possibles usages du véhicule autonome. Ce ne sera pas tout de suite la grande révolution annoncée, mais le changement qui s'amorce est tout de même immense. Ne serait-ce que d'un point de vue réglementaire. Qui sera responsable à l'avenir en cas d'accident? Cette nouvelle mobilité va-t-elle entraîner un grand Big Bang en matière d'assurance des automobilistes? C'est un sujet bien sûr sur lequel planche Marc Rigolo de la Fondation Maïf.
Nous allons tant dire que avec ces voitures autonomes, on allait ne plus avoir d'accident. Tout simplement parce que on nous dit, dans 9 cas sur 10, l'humain est en cause dans un accident. Alors, quand on réfléchit un petit peu à tout ça avec du recul, oui, c'est vrai, c'est logique, puisqu'il conduit. Donc, ça pourrait même être 9 fois sur 10 ou 10 fois sur 10, l'humain est concerné par l'accident. Ce qu'on ne compte pas, c'est que sur ces 10 accidents qui sont survenus, il y en a peut-être 100, il y en a peut-être 1000 qui auraient pu survenir. Et pour lesquels l'humain, lui, parce qu'il a des facultés d'anticipation, d'intuition, de prudence, d'expérience, l'humain, il a ralenti à un endroit parce qu'il a vu quelqu'un au bord de la route en se disant il va peut-être traverser ou pas, il a évité un certain nombre d'accidents qui ne sont pas du tout dans ces statistiques. Donc ça, c'est le premier point. Donc l'idée que ça va faire baisser les cotisations, ça pose question déjà sur la fréquence des accidents. Après, il y a l'autre point qui est le coût. Parce que quand on a un accident avec une voiture bardée de capteurs et qu'il faut la réparer, notamment sur sa face avant, où vous pouvez avoir des caméras, des lidars, ça coûte une fortune. Et donc, le coût de réparation pour un véhicule autonome, pour un réparateur, n'est pas du tout le coût de réparation de votre Clio. Ensuite, la question de la responsabilité est une question qui est importante. Parce que aujourd'hui, pour l'instant, le conducteur est responsable. Et donc, c'est vers lui qu'on va se retourner. Ce qui se passera à terme, c'est que si on estime que c'est le véhicule qui a causé l'accident, les assureurs se retourneront vers le constructeur, le développeur du soft, l'équipementier qui a fourni la caméra, et feront des recours. Donc, tous ces éléments-là, et notamment tous les éléments qui tournent autour de ces connexions entre infrastructures, véhicules, entre véhicules, vont poser des problèmes complexes en matière juridique. Et d'ailleurs, un des enjeux sur lesquels il y a aujourd'hui des discussions au niveau européen, c'est la question de l'accès à la donnée. Parce que bien évidemment, aujourd'hui, les données, notamment les données qui vont précéder l'accident, sont des données qui sont détenues par, finalement, le constructeur. Et donc, la difficulté sera d'avoir un accès libre et ouvert à ces données. Et c'est un débat aujourd'hui complexe, parce qu'évidemment, tous ceux qui détiendront ces données savent qu'il y a des enjeux économiques très forts pour eux, notamment effectivement en cas de procès ou en cas d'accident grave, et donc ne sont pas forcément ravis à l'idée de fournir ces données.
En écoutant Marc Rigolo, j'ai une pensée pour Maître Éric Decaumont. Il est avocat spécialisé dans le droit des automobilistes, et on le connaît bien sur Radio Vinci Autoroute. Je me dis que finalement, lui et ses confrères ne sont pas prêts d'être au chômage, tant les litiges liés à la route risquent de se complexifier dans les prochaines années. Je suis d'ailleurs allée l'interroger à ce sujet, mais finalement c'est sur un autre thème, tout aussi passionnant, qu'il m'a entraîné. Lui, ce qui l'inquiète avant tout, c'est que ce véhicule autonome nous fasse définitivement basculer vers un univers de données, où tous nos déplacements et comportements sont tracés. Et ça, il n'en veut pas.
Finalement, la conduite automobile à la Minority Report, pour reprendre le nom d'un film célèbre, où tout va être automatisé, parce que peut-être qu'à ce moment-là, on n'aura plus que des voitures totalement autonomes, et où éventuellement, s'il vous prenait l'envie saugrenue de reprendre le contrôle de votre véhicule, qui plus est, quelle horreur pour commettre une infraction et dépasser une sacro-sainte limite de vitesse. Ça se termine, je ne sais pas moi, soit par un signalement immédiat, ne serait-ce que parce que grâce au capteur qu'on a mis sur votre tête, en plus de la ceinture de sécurité, Tom Cruise a repéré au sein du PC de Minority Report, bon, que vous aviez l'intention de débrancher quelque chose pour reprendre le contrôle de votre voiture, même si c'est pas pour commettre une infraction, mais que ça, c'est déjà terriblement déviant et qu'il est question de sévir immédiatement. en commençant par une petite décharge électrique pour vous rappeler à l'ordre, et puis qu'après ça, vous soyez automatiquement arrêté au poste de police suivant par la voiture qui vous emmènera directement chez les gendarmes, en ayant imprimé d'ores et déjà le procès-verbal de l'infraction que vous avez commise, ou voulu, ou imaginé commettre, pour que les gendarmes vous verbalisent immédiatement et que vous alliez en prison en attendant qu'un juge puisse vous juger. Moi, ce que je crains, c'est que les automobilistes aient en tout cas perdu, de toute façon, dans 20 ans, une chose essentielle, qui effectivement n'est sûrement plus déjà la valeur principale dans notre société, et qu'il sera encore moins dans 20 ans, la notion de plaisir, voire éventuellement d'indépendance, d'autonomie. Et je vais vous dire, si ça arrive, que je suis encore là, que je suis encore vivant, et que j'ai encore les capacités pour conduire une voiture, faites-moi confiance, pour me retrouver, ça sera post-restante, dans le maquis Corse, où je me déplacerai avec une berlinette Alpine 1600S de la grande époque où on était champion du monde des rallyes, et où effectivement, là, même les satellites les plus puissants pourront rien faire pour m'empêcher de me faire plaisir dans le maquis.
Je roule dans la nuit noire, je tourne jusqu'à 30 ans, je roule jusqu'à l'aube.
Alors si Maître Éric de Caumont a prévu d'aller rouler jusqu'au bout de la nuit fauve pour échapper à la mobilité automatisée, il n'est pas le seul à défendre ce genre d'argument. Cela rejoint notamment la thèse d'un philosophe américain, Matthew B. Crawford. Dans Prendre la route, un essai sorti en 2020 aux États-Unis et traduit depuis dans de nombreux pays, il dresse l'éloge de la conduite et de la souveraineté sur la route. Et il nous conjure, nous citoyens, de ne pas laisser Google et d'autres GAFAM s'en emparer. Conduire, dit-il, c'est exercer sa capacité à être libre et c'est une qualité qui mérite d'être préservée. Il y a donc eu des promesses non tenues, des fantasmes en matière de voitures autonomes. Nous voilà arrivés à l'heure de vérité, et c'est peut-être une chance. Celle de pouvoir décider ce que nous voulons vraiment faire de cette innovation. Le véhicule autonome, si les navettes collectives, robotaxis, droïdes de livraison, ou que sais-je encore, mais pas seulement voitures personnelles, nous offrira peut-être la chance de rendre la mobilité plus inclusive. C'est l'un des enjeux de la stratégie nationale portée par le gouvernement. Elle veut faire de la France, d'ici 2025, le lieu privilégié en Europe du développement du véhicule autonome. C'est une sacrée ambition. On aura sans doute l'occasion d'en reparler dans Destination demain.